Le journal vous est présenté par Camille Revel.
Bonjour à tous. La Tunisie pourrait bien se retrouver sans gouvernement dès ce soir. Il y a presque deux mois, le président Béjik Haïd Essebsi a appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale et donc au départ de l'équipe en place. Mais depuis, les négociations s'enlisent. En attendant, le premier ministre Habib Essid a demandé un vote de confiance à l'Assemblée. Ce vote est prévu aujourd'hui et la plupart des partis représentés au Parlement ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteront contre Justine Fontaine.
Il ne faut pas beaucoup de temps pour faire les comptes. Aucun groupe parlementaire n'a appelé à renouveler la confiance au gouvernement d'Habib Essid. Tous les partis membres de la coalition au pouvoir ont même annoncé qu'ils voteraient contre le Premier ministre et son équipe actuelle. Sauf surprise, la Tunisie se réveillera donc demain sans gouvernement. Ancien haut fonctionnaire, Habib Essid avait été choisi au lendemain des élections de 2014 à cause de son profil de technocrate. Ces derniers mois, le bilan de son gouvernement est relativement bon sur la sécurité par rapport à une année 2015 marquée par les attentats sur la plage de Sousse et au musée du Bardo. Le bilan économique, par contre, est bien plus terne. Chute du tourisme, croissance proche de zéro et chômage en hausse. Un diplômé sur trois est sans emploi et le gouvernement n'a pas endigué la corruption. Alors pour la plupart des Tunisiens, les espoirs de la révolution de 2011 semblent bien loin. Début juin, quand le président appelle à former un gouvernement d'union nationale, la proposition est donc plutôt bien accueillie par la classe politique. Mais presque deux mois plus tard, les partis n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur le nom du prochain Premier ministre. Au lieu de l'union nationale annoncée, qui selon le président devait faire avancer le pays malgré les divergences partisanes, la Tunisie se retrouve donc coincée dans une crise politique à laquelle elle ne voit pas encore de porte de sortie.
À Tunis, les explications de Justine Fontaine. En France, une nouvelle journée d'hommage en mémoire du père Jacques Hamel. Aujourd'hui, ce prêtre assassiné mardi par des terroristes dans une église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Une veillée de prière aura lieu dans cette commune. Une cérémonie œcuménique est prévue dans une église de Bordeaux. Et puis à Lyon, une marche de la fraternité est organisée à l'appel du Conseil régional du culte musulman. Trois personnes reste en garde à vue ce matin dans le cadre de l'enquête sur cet attentat, une attaque qui pose une nouvelle fois la question de la radicalisation en prison. L'un des terroristes aurait nourri son projet au contact de son co-détenu saoudien, selon des révélations du magazine L'Express. Depuis la radicalisation en prison de Mohamed Merah ou du terroriste de l'Hyper-Cacher, l'État tente de mettre en place des mesures pour lutter contre ce phénomène. Olivier Caquino est secrétaire général du syndicat pénitentiaire SNEPAP-FSU et pour lui, le gouvernement ne donne pas les bons outils aux surveillants de prison.
On a des réserves, on a des inquiétudes, on a un problème de confusion des objectifs. Les personnels pénitentiaires ne sont pas des agents du renseignement. Ça, je crois qu'il faut que ce soit intégré par tout le monde. Il y a notamment une circulaire qui est sortie avec des grilles diffusées sur les terrains pour accompagner l'évaluation, la détection de ce type de public. On a du mal à savoir de quoi ces grilles s'inspirent. Et on a surtout une autre difficulté, c'est qu'il y a une quantité de critères dits de radicalisation qui peuvent être retenus dans cette démarche-là. La difficulté, c'est que les grilles qui sont proposées par l'administration pénitentiaire, on n'a pas d'outils liés d'accompagnement des personnels. C'est-à-dire qu'on a une série de critères, mais qui ont, tels qu'ils sont présentés, tous la même valeur. Ça, c'est un problème. On a aussi, je crois qu'il faut le dire, on a l'impression quand même, il y a aussi un marché de la lutte contre la radicalisation qui est en train de voir le jour, avec des secteurs qui apparaissent de-ci, de-là, dont on ignore un petit peu l'origine quelquefois, ou on n'avait jamais vu par le passé. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui apparaissent. Il y a de l'argent à dépenser. Il y a une pression en partie légitime sur ce sujet-là. Donc, on multiplie effectivement les activités ou les programmes, les interventions. Et il y a un moment, ça part dans tous les sens. C'est un peu ce qu'on a ressenti ces derniers mois sur certaines choses.
Des propos recueillis par Héloïse Deneville. Lula sera bien jugé pour son rôle présumé dans le scandale tentaculaire Petrobras. L'ancien président brésilien est inculpé pour tentative d'entrave à la justice. Il est soupçonné d'avoir voulu acheter le silence d'un ancien dirigeant du groupe pétrolier brésilien. Deux semaines après le putsch raté en Turquie, le coup de balai promis par Ankara se poursuit avec hier de premières gardes à vue de dirigeants d'entreprise. 17 journalistes soupçonnés d'être proches de Fethullah Gülen ont été inculpés pour appartenance à une organisation terroriste et écrouée. À ce jour, 10 000 personnes sont poursuivies et placées en détention préventive. 50 000 passeports ont été annulés. 4 condamnés à mort pour trafic de drogue exécutés hier en Indonésie. Parmi les étrangers qui restent dans le couloir de la mort, le Lorrain Serge Atlaoui, condamné pour avoir participé à un atelier clandestin de fabrication de stupéfiants. La peine capitale est un élément de la répression anti-drogue en Indonésie, mais pour l'avocat de Serge Atlaoui, maître Richard Sedillo, elle est inefficace.
En réalité, la peine de mort est la plus grande preuve de faiblesse des États. La peine de mort, malheureusement, en Indonésie, est très populaire et elle ne coûte pas cher, infiniment moins que des mesures véritablement efficaces contre le trafic de stupéfiants. Alors, pour faire croire à la population qu'on lutte vraiment contre ce trafic, on exécute des condamnés à mort en disant « Vous voyez à quel point on est efficace et à quel point on veut éradiquer ce trafic. » Mais les autorités indonésiennes le savent, c'est complètement inutile pour éradiquer ce trafic, mais la mise en œuvre de la peine de mort, c'est la meilleure preuve de la faiblesse des États qui ne veulent pas mener une véritable politique contre le trafic de drogue et qui font croire qu'ils s'y intéressent en exécutant.
Quelles conséquences ça peut avoir pour les autres détenus étrangers dans les couloirs de la mort, dont le français Serge Atlaoui ?
Fort heureusement, Serge Atlaoui et la jeune Philippine avaient été retirés de la liste l'an passé, au dernier moment. Mais en même temps, bien que n'étant pas coupable, il est toujours en détention, il est toujours dans les couloirs de la mort. On a un peu de mal à savoir quel est le fil directeur de cette politique judiciaire.
Maître Richard Sedillo au micro de Nadine Epstein. Une nouvelle journée de grève des hôtesses et stewards au sein de la compagnie Air France. Un vol sur 5 est annulé aujourd'hui. Le trafic moyen courrier est le plus touché avec 30% d'annulation des vols. Un mot du ciel, le temps instable aujourd'hui pour le grand chassé croisé de l'été. Prudence, la journée est classée noire sur la route dans le sens des retours. Vous trouvez des nuages sur le quart nord-ouest avec des averses. Au bord de la Méditerranée, un beau soleil. Le ciel se dégage dans l'après-midi. Pour les températures, vous comptez de 17 à 21 degrés dans le nord-ouest ce matin, de 21 à 27 ailleurs et jusqu'à 29 degrés sur la Côte d'Azur.